Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans une heure environ, la présidente de la Commission européenne prononcera son premier discours sur l'état de l'Union. Ursula von der Leyen devrait notamment proposer de baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Un plan d'avenir vert, très attendu, vous le comprendrez.
C'est dans ce contexte que les ONG Greenpeace et CCFD Terres Solidaires dénoncent l'accord commercial avec le Mercosur. Elles demandent un moratoire pour des raisons climatiques.
Les départements français doivent pouvoir s'adapter à la crise sanitaire localement. Voilà ce que prône le gouvernement en pleine crise du Covid-19. Vous entendrez les arguments du Premier ministre et ceux de l'opposition, alors qu'un projet de loi pour prolonger les dispositions exceptionnelles est présenté ce matin en Conseil des ministres.
Et puis nous reviendrons, Clara, sur les accords de paix signés par Israël hier soir avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Cette nuit, deux roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël.
Après ce journal, enfin, le billet politique. Frédéric Saïs se demandera ce matin si, oui ou non, le langage politique est de plus en plus grossier. Jusqu'où l'Union européenne acceptera-t-elle de baisser ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans? Moins 55% en 2030, c'est ce que pourrait annoncer la présidente de la Commission européenne ce matin. Premier discours sur l'état de l'Union pour Ursula von der Leyen. Un discours vert, très attendu dans les rangs du Parlement, car tout le monde s'accorde pour reconnaître que cet engagement aura un impact sur nos vies et sur celles des entreprises, Angélique Bouin.
D'ici 15 à 20 ans, on ne pourra sans doute plus vendre de voitures essence ou diesel. Les hôpitaux, les écoles de Rome, Budapest ou encore Athènes auront été rénovées et les centrales à charbon polonaises fermées. Mais il faudra aussi que certaines multinationales soient taxées. C'est ce qu'espère l'eurodéputé vert David Cormann.
Ça veut dire qu'il faut des nouvelles ressources, des fiscalités sur ceux aujourd'hui qui ne payent pas d'impôts et sont les plus gros pollueurs. C'est la taxe carbone aux frontières, c'est la taxe sur les transactions financières, c'est la taxe sur le kérosène, des idées comme ça.
Et pour rouler électrique ou se chauffer avec le soleil, les 750 milliards d'euros du plan de relance européen sont une aubaine. Une grande partie de ces investissements accompagnera la transition énergétique, se réjouit l'eurodéputé La République En Marche, Pascal Canfin, qui préside la commission environnement.
En 2009, lors de la crise financière, on avait fait une relance qui n'était absolument pas une relance favorable au climat. Là, on a tout en main pour faire la première relance verte de l'histoire, qui nous fait à la fois gagner sur le plan économique et social, parce qu'on réinjecte de l'économie pour créer des emplois et sauver les entreprises, et en même temps, on accélère la lutte contre le dérèglement climatique.
À condition que les 27 chefs d'État et de gouvernement s'accordent sur cet objectif de réduction des émissions, la Pologne traîne toujours des pieds et pourrait bien bloquer l'adoption d'une loi européenne sur le climat ambitieuse et espéré par beaucoup avant la fin de l'année.
L'Europe qui prône donc une transition écologique organisée et qui, dans le même temps, accepte un accord commercial controversé avec le Mercosur, c'est-à-dire la communauté argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. Ce matin, le CCFD Terres Solidaires et Greenpeace publient un rapport qui pointe les risques de cet accord signé il y a un an. Un accord dénoncé par Emmanuel Macron, mais signé quand même. Les ONG demandent donc un moratoire pour des raisons climatiques, Marie Viennot.
Augmenter les échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est l'un des objectifs de cet accord, l'un des plus importants négociés par l'UE puisqu'il couvre plus de 710 millions de personnes. Qui dit plus d'échanges, dit plus d'émissions de CO2. Cet accord n'est donc pas bon pour le climat, affirment le CCFD et Greenpeace, comme de nombreuses autres associations. Autre critique, la nature des échanges que cet accord va favoriser, des voitures contre des vaches et des minerais, résument ses détracteurs qui craignent la concurrence déloyale imposée aux agriculteurs européens. Ces échanges agricoles facilités vont, anticipe le rapport du CCFD et de Greenpeace, favoriser la déforestation, car pour exporter davantage de soja et de biocarburants en Europe, les pays du Mercosur, Brésil en tête, augmenteront les parcelles consacrées à ces cultures au détriment des forêts et sans ménagement pour ceux qui y vivent. Les populations autochtones et les milieux naturels sont-ils quantité négligeable dans la relance européenne post-Covid-19 et son Green New Deal, demandent les ONG dans la lettre qu'elles ont envoyée aujourd'hui à Emmanuel Macron. Elle lui demande de mettre son veto à l'accord avec le Mercosur, un veto qu'il n'a pas. Le commerce étant une compétence exclusive de l'UE, seule la majorité qualifiée est requise au Conseil européen. Mais les ONG gardent espoir, car comme la France, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Irlande et récemment sans l'Allemagne ont exprimé des doutes. Rien ne presse. Cependant, bien que signé il y a un an, l'accord avec le Mercosur n'est pas encore à l'agenda européen pour la partie ratification.
Des explications signées Marie Viennot. Autre préoccupation européenne à l'aube d'un discours sur l'état de l'Union, la crise sanitaire liée au Covid-19. L'Europe aborde un moment décisif selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS souligne surtout l'arrivée de l'automne et les conséquences de la rentrée scolaire. En Grèce, par exemple, les autorités sont confrontées à un retentissant fiasco. Des centaines de milliers de masques ont été distribués dans toutes les écoles du pays, mais la plupart étaient beaucoup trop grands pour pouvoir être portés. En France, ce sont actuellement plusieurs universités qui doivent suspendre leurs cours pour les deux prochaines semaines à cause de l'épidémie. Une soixantaine de cas ont été signalés à l'Université de médecine de Montpellier après une soirée étudiante. Idem à Toulouse avec 127 étudiants testés positifs au coronavirus. Voilà pour les ajustements régionaux, locaux face à cette crise sanitaire. Des exemples donnés au compte-gouttes et cela devrait durer. Le projet de loi qui prolonge de 6 mois les mesures exceptionnelles doit être présenté ce matin en Conseil des ministres. C'est cet arsenal qui a notamment permis ces derniers jours aux Bouches-du-Rhône, au Nord ou à la Gironde de prendre des décisions contraignantes. Et c'est très bien ainsi à en croire le Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale hier pour la rentrée parlementaire.
Nous revendiquons cette méthode d'adaptation. Est-ce que c'est moi qui, depuis Paris, vais décider de la fermeture d'une classe dans le Calvados ou en Eure-et-Loire ? Nous fixons les critères nationaux, il y a des protocoles et leur application est locale. L'État d'aujourd'hui, c'est pas forcément un État qui décide tout depuis Paris. L'État efficace, c'est un État qui prend des mesures adaptées aux circonstances. C'est un État qui essaie de concilier la vie économique et sociale et la lutte indispensable contre la pandémie.
Des décisions au cas par cas, on l'a donc compris, mais cela risque, selon l'opposition, d'entretenir une certaine confusion dans l'esprit des Français, Rosalie Lafarge.
Adapter les mesures au territoire en fonction des situations, personne n'est contre dans l'idée.
C'est une bonne chose à condition qu'il y ait de la clarté, de la cohérence et de la constance.
Malheureusement, elles ne sont pas au rendez-vous pour le patron des députés Les Républicains, Damien Abad.
C'est pas la différenciation entre les territoires qui entraîne de l'illisibilité. Ce qui entraîne l'illisibilité, ce sont les ordres, les contre-ordres, ce sont les changements de pied incessants et permanents du gouvernement. Comment peut-on, dans le même temps, dans les rues de Lyon, autoriser les spectateurs à venir autour de France et dans les pentes du Colombier à les interdire?
Et ces incohérences, elles risquent d'inciter les Français à ne pas ou ne plus respecter les consignes, selon Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Évidemment, vous n'allez pas traiter de la même façon une zone rouge et une zone verte. Vous n'allez pas traiter de la même façon une zone rurale avec une zone hyper dense. Mais moi, je souhaite que dans la même situation, on ait des réponses identiques d'un bout à l'autre du pays. Sinon, vous allez finir par avoir des gens qui vont se dire « mais puisque c'est différent d'un bout à l'autre de la France, c'est que tout ça se fait au doigt mouillé ».
Mais l'exécutif maintient pour maîtriser le front épidémique sans empêcher la reprise économique. L'approche doit aujourd'hui se faire au cas par cas, l'objectif étant d'éviter à tout prix un nouveau confinement généralisé.
Un dossier signé Rosalie Lafarge. 50 nouveaux territoires en plus des 10 déjà existants. Le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée est étendu. Il avait été porté par l'association ATD Quart-Monde, mise en place il y a 3 ans. Et depuis, plus de 1000 personnes ont trouvé un emploi en étant intégrées à un territoire et à ses besoins. L'État contribue à hauteur de 18 000 euros par an et par emploi. Cela correspond aux économies attendues par l'arrêt du RSA et des indemnités chômage.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Revenons à présent sur les accords de paix signés hier soir par Israël.
Oui, la scène se passait à la Maison Blanche aux États-Unis. L'État hébreu entretient désormais des relations officielles avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Et à entendre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ce n'est que le début d'un processus vertueux au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump pense la même chose, Frédéric Mettezo.
5 ou 6 pays arabes prêts à normaliser leurs relations avec Israël, Donald Trump voit grand. Les experts israéliens en envisagent 3 ou 4, Oman, le Soudan et le Maroc, et à plus long terme, l'Arabie Saoudite. Ce serait alors une véritable bascule diplomatique avec la constitution d'un axe anti-Téhéran et économique avec des marchés prometteurs pour l'économie israélienne. Benjamin Netanyahou ou le directeur du Mossad ont déjà pris personnellement contact avec les officiels de ces pays, parfois éloignés d'Israël. En revanche, hier, le Premier ministre israélien n'a pas mentionné ses plus proches voisins, les Palestiniens.
This peace
Cette paix va finir par inclure d'autres États arabes, explique Netanyahou, et l'ultime étape peut être la fin du conflit israélo-arabe. Mais paradoxalement, ses nouveaux amis pourraient l'obliger à rouvrir ce dossier israélo-palestinien. Hier, le ministre émirati des Affaires étrangères a remercié Netanyahou d'avoir stoppé l'annexion de territoires palestiniens, et celui de Bahreïn en appelle à une solution à deux États.
Et voilà qui effectivement soulève un peu plus la question des relations entre Israël et la Palestine. Hier, le président palestinien Mahmoud Abbas soulignait qu'il n'y aurait aucune paix au Proche-Orient sans la fin de l'occupation israélienne. Dans la foulée, des centaines de manifestants en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ont protesté. Exemple à Ramallah avec notre correspondante Alice Froussard.
Sur la place centrale de Ramallah, des centaines de personnes réunies, drapeau palestinien en main, musique entraînante et pancarte, ce deal est un coup de poignard dans le dos. C'est un cadeau pour l'occupation, ajoute Abdul Rahman Al-Kilani.
Nous sommes ici pour protester contre cet accord de la honte signé aux États-Unis. Et on est nombreux, on manifeste aussi contre ces dirigeants du monde arabe. Et notre mouvement commence progressivement à partir d'aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire.
Le sentiment qui domine, la frustration, la colère aussi, mais pas de drapeau des partis, pas de division ce jour. Les leaders de toutes les factions, Hamas, Organisation de Libération de la Palestine, sont côte à côte, se succèdent au micro. L'unité, c'est la seule solution, précise Montasser Al-Refai, venu de Jérusalem.
Si on est unis en tant que Palestiniens, on pourra faire quelque chose. Et deuxièmement, on doit recréer des liens entre les Palestiniens et la population arabe. Sinon, sans eux, on ne pourra rien obtenir.
Les belles paroles de Bahreïn appelant à la solution à deux États en signant l'accord, personne n'y croit. Et se protéger contre l'Iran, ça ne suffit pas, précise Bassam Salhi, secrétaire général du Parti du peuple palestinien.
Les pays arabes ne devraient pas accepter cette continuité. Ils peuvent se protéger sans Israël et sans les États-Unis.
Et pendant ce temps-là, à Gaza, deux roquettes ont été lancées sur le sol israélien en guise de protestation.
Alice Froussard pour France Culture. Et à propos de ces deux roquettes tirées depuis Gaza, justement, à l'instant, le Premier ministre israélien estime qu'elles visent à empêcher la paix dans les pays du Golfe. Homme promis, homme élu. Au Japon, le Premier ministre s'appelle désormais Yoshihide Suga. Il a 71 ans. Il vient d'être élu par le Parlement en remplacement de Shinzo Abe, démissionnaire pour des raisons de santé. Il était son fidèle lieutenant et ne devrait donc pas changer de politique. Nous vous en parlions ces derniers jours. Dans l'attente du verdict, eh bien, le journaliste Khaled Drareni a été condamné hier en Algérie à 2 ans de prison ferme pour des accusations d'atteinte à l'unité nationale, en somme pour s'être opposé au régime. Son avocat annonce un pourvoi en cassation. À propos de la liberté de la presse, j'en profite pour vous rappeler le procès des attentats de janvier 2015. Il se poursuit à Paris. Hier, un enquêteur a relaté les 2 jours de traque des frères Kouachi. Impossible de les arrêter vivants, a-t-il notamment expliqué. Les terroristes étaient armés et prêt à mourir. Florence Turm vous relate ses audiences jour par jour sur notre site franceculture.fr. Et si des médicaments ne provoquaient que des effets indésirables sans soulager les patients? L'agence du médicament se pose la question concernant des antibiotiques prescrits à des enfants autistes. Elle le signale et elle saisit le procureur de la République. Près de 5000 enfants pourraient être concernés et c'est pour les familles que l'ANSM porte plainte. Voilà ce que dit Philippe Vella, le directeur des médicaments neurologiques au sein de l'agence.
Ce sont des familles qui ont des enfants atteints de troubles autistiques, qui peuvent être dans le désarroi, vulnérables. Et donc l'idée, c'est vraiment de les alerter sur ces utilisations de médicaments qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans cette indication et qui, en revanche, sont des médicaments dont on connaît les effets indésirables qu'ils peuvent engendrer, à type de troubles digestifs, voire de troubles cutanés, parfois de troubles cardiovasculaires, mais aussi les effets indésirables spécifiques de certains d'entre eux, et du fait de l'administration au long cours, notamment des antibiotiques, ça expose ces enfants à un problème d'antibiorésistance, c'est-à-dire que le jour où ces enfants auraient eu besoin ou auraient besoin d'un traitement antibiotique pour soigner une infection, ben les antibiotiques pourraient ne plus être efficaces.
Des propos recueillis par Thomas Larabi. Pour éviter d'être avalé par son rival, Suez monte un consortium qui rachèterait les 32% détenus par Engie, information de nos confrères du Figaro ce matin, alors que les dirigeants de Suez rencontrent justement aujourd'hui le ministre de l'économie, Bruno. Bruno Le Maire. Signalons aussi que la marque H&M cesse toute relation avec un producteur de fil chinois, producteur accusé de travail forcé de Ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang. Le géant suédois du prêt-à-porter est la première grande entreprise à prendre ce type de décision. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 9h sur France Culture tout à l'heure. D'ici là, je vous livre la météo du jour. Ce mercredi s'annonce agréable en France métropolitaine, un petit peu plus nuageux mais encore très chaud, avec ce matin 18 degrés à Rennes, 20 à Lille et Paris, 21 à Lyon et Bordeaux, 24 degrés dans la matinée à Nice. Météo France prévoit 25 à 31 degrés cet après-midi.